Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonjour à tous. Les difficultés d'insertion des aveugles et malvoyants, c'est le sujet auquel nous nous intéressons aujourd'hui dans Afrique 7 jours. Nous irons en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, où les infrastructures pour faciliter les déplacements de cette catégorie sociale font défaut. Ce sera dans la première partie de ce magazine. Dans la seconde partie, on retrouvera comme d'habitude Philippe Pognon pour l'Afropresse. Bonjour Philippe.
Bonjour Carole.
Alors cette semaine, l'un des thèmes les plus commentés dans la presse allemande reste toujours l'épidémie d'Ebola.
Oui, nous parlerons aussi du prix Sakharov.
Merci Philippe, à tout à l'heure. Et tout de suite, on se rend en Côte d'Ivoire, un pays qui compte quelque 200 000 aveugles et malvoyants. Mais en dehors d'un seul institut d'une capacité d'une centaine de places, les infrastructures pour faciliter leur déplacement, en l'occurrence en ville, n'existent quasiment pas. Du coup, très peu d'aveugles et malvoyants ont le courage et la chance de sortir seuls de chez eux. Julien Adaé, notre correspondant à Abidjan, a voulu en savoir davantage sur les difficultés auxquelles cette couche sociale vulnérable est confronté au quotidien. Il a passé une journée avec des non-voyants. Voici son reportage.
Quand on marche, souvent, quand on arrive au traversé, là, si tu es tout seul, attendre que quelqu'un qui soit rempli d'humanisme pour t'aider à traverser. Sinon, très souvent, d'autres aussi, ils sont là, ils vous regardent. Et puis, ils vous disent rien, même si vous partez tomber dans un trou.
Ces propos sont du jeune Fidel Yeo, 16 ans, élève en classe de terminale dans un lycée de Yopougon et aveugle. Avant l'ouverture très prochaine de l'internat de l'Institut des aveugles, Yeo habite chez Salah Kofi, professeur de maths à l'Institut des aveugles et aussi non-voyant. Chaque matin, ils font chemin ensemble avec comme seul guide leur canne.
Il y a ça, la canne et puis l'accotement là.
Mais comment vous identifiez l'obstacle qui est en face de vous?
Avec ma canne.
Avec la canne.
Ah. Vous voyez, là c'est quelqu'un. Vous voyez, il y a des véhicules qui viennent et qui montent là sur le trottoir, on ne peut pas passer. Et comme il est encore un matin, sinon aux environs de midi, tout il est rempli hein, de marchandises.
Yeo, comme beaucoup d'autres aveugles, rencontre assez de difficultés dans la circulation, surtout aux heures de pointe.
Il marche comme ça, vous allez voir que des personnes qui viennent en sens opposé, ils viennent et puis me cognent, comme s'ils ne voyaient pas. C'est pas normal. Ma canne fait du bruit quand même. Ça, c'est un sorcier. Elle demande un sorcier de ne pas te comporter comme ça.
À quelques 500 mètres, nous rencontrons Emmanuela, qui est dans le même lycée que Yeo. Elle va lui servir de guide.
Je peux l'attraper, le conduire, je lui dis s'il y a des trous, quelque chose comme ça.
Mais bonne journée.
À présent, nous allons prendre la direction opposée en compagnie de Salah Kofi. Le trafic commence à être dense et les rues mouvementées. Tout le monde est pressé et les choses semblent compliquées pour notre non-voyant.
Il y a un véhicule et à la fois il y a un déchet.
Oui.
Je vois comment il va réagir.
Ah, là, il ne m'a pas laissé. Si vous ne m'avez pas dit, moi j'allais foncer et j'allais me retrouver nez à nez avec ce véhicule. Merci beaucoup.
Le parcours de Salah est parsemé d'embûches et d'obstacles. Ni piétons ni automobilistes ne lui font cadeau. Ici, c'est chacun pour soi. Pour effectuer ce trajet, notre professeur est obligé de prendre des repères, comme ici.
Maman.
Bonjour, papa. Comment tu vas?
C'est notre maman qui nous donne à manger. C'est un repère pour nous. Lorsque nous arrivons là, que nous saluons, qu'elle répond, c'est qu'on doit emprunter cette piste-là.
Ici, à Abidjan, pas d'espace ou de passage réservé aux aveugles. Du coup, circuler est un véritable parcours de combattant et lourd de conséquences. Notre professeur de maths a déjà payé cash l'intolérance des autres usagers.
Les automobilistes, vraiment, ils ne nous facilitent pas la tâche. Ils occupent pratiquement le trottoir. Ils se disent qu'ils sont les rois de la route. J'ai été renversé à deux reprises. Maintenant, l'autre, c'est des hommes bien portants comme vous qui se trouvent sur notre chemin. Au lieu de nous aider, ils nous mettent aussi des bâtons dans les roues. La plupart de nos difficultés, c'est dans la circulation. Sinon, si c'est au niveau du travail ou au niveau familial où il y a des difficultés aussi, on arrive à s'adapter.
Après 20 minutes de marche, nous voici au sein de l'Institut des aveugles. Ici, la rentrée est prévue pour novembre. Malgré l'optimisme de son directeur Poku Kwabenan et le dévouement des encadreurs, l'Institut connaît de nombreuses difficultés. Des bâtiments vétustes, des murs lézardés attendent depuis bien longtemps une couche de peinture. À cela, il faut ajouter.
Comme nos enfants sont non-voyants et que tout se fait de façon tactile, donc ils touchent. La transition qui détruit tout. Le problème de l'Institut, c'est un peu cela. Alors il faut quelqu'un forcément. Toujours dans les couloirs, on dit on fait pas ceci, on fait pas cela.
Autour de l'école, les voies de canalisation sont bouchées, obstruées par des constructions anarchiques, ce qui crée un véritable problème d'assainissement. Sur le plan didactique, le matériel fait cruellement défaut. Difficile d'être non-voyant sous nos tropiques. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et sur les ondes de la Deutsche Welle, Afrique 7 jours continue avec la revue de la presse. Et on va commencer avec le prix Sakharov 2014, décerné cette année au médecin congolais Denis Mukwege, qui soigne des femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo, Philippe.
Pour de nombreuses femmes dans le Sud Kivu, Denis Mukwege est synonyme d'espoir et de salut, relève la FATS, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans l'Est de la RDC, les viols de masse et les mutilations génitales sont devenus une tactique de guerre courante. Le docteur Mukwege, un gynécologue de 59 ans, est spécialiste de la reconstitution chirurgicale des organes génitaux féminins. Des organes souvent détruits par des tessons de bouteilles, des barres de fer chauffées à blanc ou par des canons de fusil. L'ampleur de ces crimes est illustrée par le nombre de patientes qu'accueille la clinique Panzi, créée à Bukavu par Denis Mukwege. Chaque jour, 10 femmes gravement mutilées y sont admises. Au moins un tiers d'entre elles doivent être opérées d'urgence. Au cours des 16 dernières années, Mukwege et son équipe ont procédé ainsi à plus de 40 000 opérations, ce qui a valu aux médecins congolais d'avoir la réputation d'être le spécialiste numéro un dans le monde de la reconstruction plastique des organes génitaux féminins.
Une réputation à laquelle le docteur Denis, comme on l'appelle, aurait probablement volontiers renoncé, suppose la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Oui, et le lauréat du prix Sakharov 2014 du Parlement européen est un exemple phare d'humanité dans une région où la barbarie ne connaît apparemment plus de limites. Les simples gens au Kivu l'adorent comme un dieu, les puissants le haïssent. Car Mukwege ne soigne pas seulement les victimes de viol, mais il recueille aussi leurs témoignages et les publie. Il montre ainsi du doigt les responsables, aussi bien parmi les groupes rebelles soutenus par le Rwanda qu'au sein de l'armée congolaise. Les tentatives répétées de le réduire au silence sont légion, note le journal. En octobre 2012, il a survécu de justesse à un attentat, une tentative de meurtre liée sans doute au discours qu'il avait tenu quelques jours auparavant devant l'Assemblée générale des Nations unies, où une fois de plus, il avait accusé tous les belligérants dans l'Est de la RDC de viol de masse.
Et la Frankfurter Allgemeine Zeitung revient aussi sur le passé de Denis Mukwege.
Il est né le 1er mars 1955 à Bukavu. Il est le fils d'un pasteur protestant de la mission pentecôtiste suédoise. Denis a étudié la médecine au Burundi voisin et, ses études terminées, a travaillé dans un petit hôpital à Lemera, dans le Kivu. Là, il a été témoin de la mort de nombreuses femmes enceintes à l'accouchement par manque de personnel spécialisé. C'est pourquoi il a fait des études et des stages supplémentaires à Angers, en France, pour se qualifier en tant que gynécologue. De retour à l'Émirat, sa clinique a vite été connue par-delà les frontières du pays. La clinique a été malheureusement incendiée en 1996, 2 ans après que le génocide au Rwanda a exporté vers le Congo guerre et viol de masse. Un incendie criminel destiné à chasser le courageux médecin. Mais peu après, avec une aide internationale, ce père de 5 enfants a alors construit la clinique Panzi dans sa ville natale de Bukavu. La liste de ses distinctions est longue. Entre autres, Mukwege s'est vu décerner le prix suédois Olof Palme, le prix français de la Légion d'honneur et le prix belge du roi Baudouin. Et ces dernières années, son nom était chaque fois cité parmi ceux de lauréats potentiels du prix Nobel de la paix.
Autre sujet également développé dans la presse allemande cette semaine, la fièvre hémorragique d'Ebola. Le quotidien Tagesspiegel rapporte sa rencontre à Bonn dans notre maison de la radio avec Jan-Philipp Scholz, correspondant de la Deutsche Welle pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, à son retour de Freetown en Sierra Leone. La Sierra Leone, un pays qui est durement touché par l'épidémie, au moins 1200 personnes y ont déjà succombé au virus selon l'OMS.
Fin septembre, Jan-Philipp Scholz et son collègue Adrian Krisch ont visité la capitale sierra-léonaise. L'éditorialiste du Tagesspiegel l'a rencontré à son retour. Jan-Philipp Scholz parle d'un choc culturel. Il raconte aussi que certains collègues ont évité ici, les premiers jours après son retour, de lui tendre la main ou de l'approcher de trop près. Mais la période d'incubation est passée et les appréhensions oubliées. Ebola fait peur. Mais d'Allemagne, l'épidémie semble très éloignée et les médias ici ont ces derniers mois davantage parlé d'autres foyers de crise, des guerres à Gaza et en Syrie, de la lutte contre les djihadistes, de l'État islamique autoproclamé. Non seulement le gouvernement a longtemps négligé le thème, mais aussi les médias, estime Jan-Philipp Scholz. D'autant plus que l'Afrique de l'Ouest n'est pas une région dans le focus des médias allemands, c'est-à-dire de ceux qui diffusent leurs programmes pour le public allemand.
Les studios des chaînes publiques allemandes ARD et ZDF qui couvrent cette région se trouvent à Nairobi, à quelques 5700 km de Freetown.
Mais peu de journalistes allemands ou connaissant bien la région sont sur place en Afrique de l'Ouest où Ebola avait réapparu en décembre dernier. De retour de Sierra Leone, Jan-Philippe Scholz et Adrian Krich ont produit un reportage télévisé d'une douzaine de minutes, un hommage à l'engagement privé de volontaires nationaux et internationaux qui aident les malades au risque de contracter eux-mêmes la maladie. L'État est complètement dépassé par les événements, estime Jan-Philippe, qui a constaté que les médecins là-bas manquent de tout, d'équipement, mais aussi d'expérience.
Sur le titre « L'Afrique de l'Ouest est loin », le quotidien Handelsblatt relève lui aussi que même si au moins 5000 km séparent Berlin des zones touchées par Ebola, on doit avoir honte quand on voit la lenteur avec laquelle le gouvernement allemand a réagi.
Depuis juin déjà, il est clair que cette épidémie d'Ebola surpasse toutes les autres apparues par le passé, que les trois principaux pays touchés, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, ne sont plus en mesure de maîtriser tout seuls la situation, que ces états sont faibles, que les gens ne peuvent plus être soignés, en partie même pas enterrés. Et pourtant, ce n'est que le 22 septembre, relève le journal, que la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a commencé à recruter des volontaires dans les rangs de la Bundeswehr pour une mission d'aide dans ces pays. Plus d'un mois et demi donc après l'appel du ministère des Affaires étrangères à tous les ressortissants allemands de quitter le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Jusqu'à ce jour, aucun soldat allemand n'est sur place dans la région de crise pour lutter contre Ebola. Les autres gouvernements, en Europe ou aux États-Unis, ont eux aussi trop longtemps attendu jusqu'à ce qu'ils engagent le combat contre le virus en Afrique de l'Ouest. Il semble, critique le journal, qu'il ait fallu que les personnels médicaux ayant contracté le virus en Afrique soient hospitalisés au Texas ou en Espagne pour que l'Occident réagisse. À ce moment-là, 3000 personnes avaient déjà succombé à la maladie en Afrique. Est-ce que la vie d'une personne a une valeur différente selon les régions ? S'interroge le quotidien Handelsblatt.
Merci beaucoup Philippe. Ainsi prend fin ce dernier numéro de votre magazine Afrique 7 jours. À la présentation, c'était Philippe Ognon et Carole Assignon. Je rappelle qu'à partir du 31 octobre, vous retrouverez Afrique 7 jours sous une autre forme, les vendredis matins à 7h19 et les dimanches soirs à 17h30. Afrique 7 jours, nouvelle formule, ce sera avec Eric Topona. Merci d'avoir été fidèle à ce magazine et merci également de continuer de rester fidèle au programme de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande.